En ce début du livre 8 de la guerre des Gaules, il serait sans doute à propos de lire la courte biographie proposée par Wikipédia au sujet d'Aulus Hirtius. Aulus Hirtius est né en 90 avant Jésus-Christ et est décédé en 43 avant Jésus-Christ. Il fut consul en 43 avant Jésus-Christ. Auteur de livres militaires, on lui attribue notamment le 8e et dernier livre des commentaires de César sur la guerre des Gaules. Il a pu également avoir été l'auteur du Bellum Alexandrinum, un travail qui commente la guerre menée par César en Égypte, mais on le considère maintenant plus probablement comme un recteur. Les deux livres qui ont pour sujet les campagnes de 46 et de 45 avant Jésus-Christ en Afrique et en Espagne, De Bello Africano, De Bello Hispaniensi, médiocrement rédigé, ne semblent pas être de lui. Il fut légat de César en Gaule jusqu'en 54. Pendant la guerre civile, il a servi en Espagne. Il pourrait avoir été un tribun en 48 et en 47 à Antioche, prêteur en 46. Gouverneur de la Gaule transalpine en 45. César l'avait nommé au consulat de 43, ainsi que C. Vibius Pansa. Après l'assassinat de César, Hirtius s'est profondément impliqué dans les manœuvres entre les différents partis. Au commencement, il fut un défenseur de Marc-Antoine. Puis, il a été amené par Cicéron, un ami personnel, à faire une alliance avec le parti sénatorial. Avec Octavien, Hirtius attaque Marc-Antoine qui assiégeait Modène, l'obligeant à se retirer. Mais il meurt au combat vers le 25 ou 27 avril. Hirtius est honoré d'un enterrement public avec Caius Vibius Pansa Caetronianus, tué quelques jours plus tôt. Voici donc le 8e et dernier livre de la guerre des Gaules, écrit par Aulus Hirtius et toujours traduit par Léopold Albert Constance en 1926. La lecture d'aujourd'hui est extraite toujours du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 26 juin 2009. Guerre des Gaules, 8e partie. 1. J'ai dû céder à tes instances, Balbus, puisque mes refus quotidiens, au lieu d'être excusés sur la difficulté de la tâche, étaient interprétés comme la dérobade d'un paresseux, et je me suis engagé dans une entreprise pleine de périls. J'ai ajouté aux commentaires de la guerre des Gaules de notre cher César ce qui y manquait, et les ai reliés aux écrits suivants du même auteur. De plus, j'ai terminé le dernier de ceux-ci, laissé inachevé depuis la guerre d'Alexandrie jusqu'à la fin non point de la guerre civile, dont nous ne voyons nullement le terme, mais de la vie de César. Puissent les lecteurs de ces commentaires savoir quelle violence je me suis faite pour les écrire. J'espère échapper ainsi plus aisément aux reproches de sotte présomption que j'encours en plaçant ma prose au milieu des œuvres de César. Car c'est un fait reconnu de tous. Il n'est pas d'ouvrage, quelque soin qu'on y ait mis, qui ne le cède à la pureté de ses commentaires. Ils ont été publiés pour fournir des documents aux historiens sur des événements si considérables. Or, telle est la valeur que chacun leur attribue, qui semble, au lieu d'avoir facilité la tâche des historiens, la leur avoir rendue impossible. Et cependant, notre admiration passe encore celle des autres, car s'ils savent quelle est la perfection souveraine de l'ouvrage, nous savons, en outre, avec quelle facilité et quelle promptitude il l'a écrit. César n'avait pas seulement au plus haut degré le don du style et la pureté naturelle de l'expression, mais il avait aussi le talent d'expliquer ses desseins avec une clarté et une exactitude absolue. Pour moi, il ne m'a même pas été donné de prendre part à la guerre d'Alexandrie ni à la guerre d'Afrique. Sans doute, ces guerres nous sont en partie connues par les propos de César. Mais c'est autre chose d'entendre un récit dont la nouveauté nous captive ou qui nous transporte d'admiration. Autre chose de l'écouter pour en faire un rapport qui aura valeur de témoignage. Mais que fais-je? Tandis que je rassemble toutes les excuses possibles pour n'être pas comparé à César, je m'expose aux reproches même de présomption que je veux éviter, en paraissant croire que semblable comparaison puisse venir à l'esprit de quelqu'un. Adieu. 1. La Gaule entière était vaincue. Depuis l'été précédent, César n'avait pas cessé de se battre. Et il désirait donner aux soldats, après tant de fatigues, le repos réparateur des quartiers d'hiver. Mais alors, on apprit qu'un grand nombre de cités à la fois recommençaient à faire des plans de guerre et complotaient. On expliquait cette attitude par des motifs vraisemblables. Tous les Gaulois s'étaient rendus compte qu'avec les troupes les plus nombreuses, si elles étaient concentrées en un seul lieu, on ne pouvait résister aux Romains. Mais que si plusieurs peuples les attaquaient en même temps, sur divers points, l'armée romaine n'aurait pas assez de ressources, ni de temps, ni d'effectifs pour faire face à tout. Dût quelque cité en souffrir, il lui fallait accepter l'épreuve. Si, en retenant ainsi l'ennemi, elle permettait aux autres de reconquérir leur indépendance. 2. César ne voulut pas laisser les Gaulois se fortifier dans cette idée. Confiant à son questeur Marcus Antonius le commandement de ses quartiers d'hiver, il quitte Bibracte la veille des calendes de janvier, avec une escorte de cavaliers, pour rejoindre la 13e Légion, qu'il avait placée à proximité de la frontière éduenne, dans le pays des Bituriges. Il lui adjoint la 11e, qui était la plus voisine. Laissant deux cohortes de chacune à la garde des bagages, il emmène le reste des troupes dans les plus fertiles campagnes des Bituriges. Ce peuple avait un vaste territoire, où les villes étaient nombreuses, et l'hivernage d'une seule légion n'avait pu suffire à l'empêcher de préparer la guerre et de former des complots. 3. L'arrivée soudaine de César produisit l'effet qu'elle devait nécessairement produire sur des gens surpris et dispersés. Tandis que, très tranquilles, ils cultivaient leurs champs, la cavalerie tomba sur eux avant qu'ils puissent se réfugier dans les villes. Car même l'indice qui signale communément une incursion ennemie, un ordre des Césars l'avait supprimé. Il avait interdit qu'on mît le feu aux constructions, pour ne pas manquer de fourrage et de blé au cas où ils voudraient avancer plus loin. Et pour éviter que la vue des incendies ne donnât l'alarme. On avait fait plusieurs milliers de prisonniers, et la terreur s'était répandue chez les Bituriges. Ceux qui avaient pu échapper à la première approche des Romains s'étaient réfugiés chez les voisins, se fiant à des liens d'hospitalité privés ou à l'alliance qui unissait les peuples. Vainement, car César, par des marches forcées, se montre partout et ne donne à aucune cité le temps de penser au salut d'autrui plutôt qu'au sien. Par cette promptitude, il retenait dans le devoir les peuples amis, et ceux qui hésitaient, il les amenait par la terreur à accepter la paix. Devant une telle situation, voyant que la clémence de César leur rendait possible de redevenir ses amis, et que les cités voisines, sans être aucunement punies, avaient été admises à donner des otages et à se soumettre, les Bituriges suivirent leur exemple. 4. Pour récompenser ces soldats d'avoir supporté avec tant de patience une campagne si dure, d'avoir montré la plus parfaite persévérance dans la saison des jours courts, dans des étapes très difficiles par des froids intolérables, César leur promet, comme gratification tenant lieu de butin, 200 sesterces par tête, 1000 pour les centurions. Puis il renvoie les légions dans leur quartier et regagne Bibracte après une absence de 40 jours. Comme il y rendait la justice, les Bituriges lui envoient une ambassade pour demander secours contre les Carnutes, qui, se plaignait-il, leur avaient déclaré la guerre. À cette nouvelle, bien qu'il n'eût séjourné que 18 jours à Bibracte, ils tirent de leur quartier d'hiver sur la Saône les 14e et 6e légions qui avaient été placées là, comme on l'a vu au livre précédent, pour assurer le ravitaillement. Et il part ainsi avec 2 légions pour aller châtier les Carnutes. 5. Quand ceux-ci entendent parler de l'approche d'une armée, ils se souviennent des malheurs des autres et, abandonnant leur village et leur ville, où ils habitaient dans d'étroites constructions de fortune qu'ils avaient bâties rapidement pour pouvoir passer l'hiver, car leur récente défaite leur avait coûté un grand nombre de villes, ils s'enfuient dans toutes les directions. César, ne voulant pas exposer les soldats aux rigueurs de la mauvaise saison, qui était alors dans son plein, campe dans la capitale des Carnutes, Sénaboum, où il entassa ses troupes parties dans les maisons des Gaulois, parties dans les abris qu'on avait formés en jetant rapidement du chaume sur les tentes. Toutefois, il envoie la cavalerie et l'infanterie auxiliaire partout où l'on disait que l'ennemi s'était retiré. Et non sans succès, car les nôtres rentrent, le plus souvent, chargés de butin. Les difficultés de l'hiver, la crainte du danger, accablaient les Carnutes. Chassés de leur demeure, ils n'osaient faire nulle part d'arrêt prolongé. Et leur forêt ne les protégeait pas entre l'extrême violence des intempéries. Ils finissent par se disperser chez les peuples du voisinage, non sans avoir perdu une grande partie des leurs. 6. César, jugeant qu'il suffisait, au plus fort de la mauvaise saison, de disperser les groupes qui se formaient, afin de prévenir par ce moyen la naissance d'une guerre, ayant d'autre part la conviction, autant qu'on pouvait raisonnablement prévoir, qu'aucune grande guerre ne saurait éclater pendant qu'on était encore en quartier d'hiver, confia ses 2 légions à Caius Trébonius, avec ordre d'hiverner à Sénaboum. Quant à lui, comme de fréquentes ambassades des Rèmes l'avertissaient que les Bellovaques, dont la gloire militaire surpassait celle de tous les Gaulois et des Belges, unis au peuple voisin sous la conduite du Bellovaque Coréos et de l'Atrébate Commios, mobilisaient et concentraient leurs forces dans le dessein de prononcer une attaque en masse contre les Suestions, qu'il avait placés sous l'autorité des Rèmes, estimant, d'autre part, que son intérêt autant que son honneur exigeait qu'il ne fût fait aucun mal à des alliés dont Rome avait tout lieu de se louer. Il rappelle la 11e Légion, écrit par ailleurs à Caius Fabius d'amener chez les Suétiens les 2 légions qu'il avait et demande à Labienus l'une des 2 siennes. C'est ainsi que, dans la mesure où le permettait la répartition des quartiers et les nécessités militaires, il ne faisait supporter qu'à tour de rôle aux légions, sans jamais se reposer lui-même, les fatigues des expéditions. 7. Quand il a réuni ses troupes, il marche contre les Bellovaques, campe sur leur territoire et envoie dans toutes les directions des détachements de cavalerie pour faire quelques prisonniers qui pourront lui apprendre les desseins de l'ennemi. Les cavaliers, s'étant acquittés de leur mission, rapportent qu'ils n'ont trouvé que peu d'hommes dans les maisons et qu'ils n'étaient pas restés pour cultiver leurs champs, car on avait procédé avec soin à une évacuation totale, mais qu'on avait renvoyé pour faire de l'espionnage. En demandant à ces hommes où se trouvait le gros de la population, et quelles étaient les intentions des Bélovaques, César obtint les renseignements suivants. Tous les Bélovaques en état de porter les armes s'étaient rassemblés en un même lieu, et avec eux les Ambiens, les Aulerques, les Calettes, les Véliocas, les Atrébates. Ils avaient choisi pour leur camp une position dominante au milieu d'un bois qu'entourait un marais, et ils avaient réuni tout leur bagage dans des forêts situées en arrière. Nombreux étaient les chefs qui avaient poussé à la guerre, mais c'était surtout à Coréos que la masse obéissait, parce qu'on le savait animé d'une haine particulièrement violente contre Rome. Peu de jours auparavant, l'Atrébate Commios avait quitté le camp pour aller chercher des renforts chez les Germains, qui étaient à proximité et en nombre infini. Le plan des Bélovaques, arrêté de l'avis unanime des chefs et approuvé avec enthousiasme par le peuple, était le suivant. Si, comme on le disait, César venait avec 3 légions, ils offriraient le combat pour ne pas être forcés plus tard de lutter avec l'armée entière dans des conditions beaucoup plus dures. S'il amenait de plus gros effectifs, ils ne quitteraient pas la position qu'ils avaient choisie, mais ils empêcheraient les Romains, en dressant des embuscades, de faire du fourrage qui, vu la saison, était rare et dispersé, et de se procurer du blé et autres vivres. 8. César, en possession de ces renseignements, que confirmait l'accord de nombreux témoignages, jugeant que le plan qu'on lui exposait était fort sage et très éloigné de l'ordinaire témérité des barbares, décida qu'il devait tout faire pour que l'ennemi, méprisant la faiblesse de ses effectifs, livrât bataille au plus tôt. Il avait, en effet, avec lui ses légions les plus anciennes, d'une valeur hors ligne, la 7e, la 8e et la 9e, plus une autre, la 11e, dont on pouvait attendre beaucoup, qui était composée d'excellents éléments, mais qui, pourtant, après 8 ans de campagne, n'avait pas, comparé aux autres, la même réputation de solidité éprouvée. Il convoque donc un conseil, expose tout ce qu'il a appris, affermit le courage des troupes. Pour tâcher d'attirer l'ennemi au combat, en ne lui montrant que 3 légions, il règle ainsi l'ordre de marche. Les 7e, 8e et 9e légions iraient en avant. Ensuite viendraient les bagages qui, bien que tous groupés ensemble, ne formaient qu'une assez mince colonne, comme c'est l'usage dans les expéditions. La 11e légion fermerait la marche. Ainsi, on éviterait de montrer à l'ennemi des effectifs supérieurs à ce qu'il souhaitait. Tout en observant cette disposition, on forme à peu près le carré et l'armée ainsi rangée arrive à la vue de l'ennemi plus tôt qu'il ne s'y attendait. 9. Lorsque soudain les Gaulois voient les légions s'avancer d'un pas ferme et rangé comme à la bataille, eux, dont on avait rapporté à César les résolutions pleines d'assurance, soit qu'alors l'idée du danger les intimide, ou que la soudaineté de notre approche les surprenne, ou qu'ils veuillent attendre nos décisions, ils se contentent de ranger leurs troupes en avant du camp sans quitter la hauteur. César avait souhaité la bataille, mais, surprise à la vue d'une telle multitude, dont le séparait une vallée plus profonde que large, il établit son camp en face du camp ennemi. Il fait construire un rempart de 12 pieds avec un parapet proportionné à cette hauteur, creuser 2 fossés de 15 pieds de large à parois verticales, élever de nombreuses tours à 3 étages, jeter entre elles des ponts que protégeaient du côté extérieur des parapets d'osier. De la sorte, le camp était défendu par un double fossé et par un double rang de défenseurs, l'un qui, des passerelles, moins exposées en raison de la hauteur de sa position, pouvait lancer ses traits avec plus d'assurance et à plus longue portée. L'autre, qui était placé plus près de l'assaillant, sur le rempart même, et que la passerelle abritait de la chute des projectiles. Il garnit les portes de battants et les flanqua de tours plus hautes. 10. Le but de cette fortification était double. L'importance des ouvrages devait, en faisant croire que César avait peur, encourager les barbares. D'autre part, comme il fallait aller plus loin pour faire du fourrage et se procurer du blé, de faibles effectifs pouvaient assurer la défense du camp, que protégeaient déjà ces fortifications. Il arrivait fréquemment que, de part et d'autre, de petits groupes s'avançaient en courant et escarmouchaient entre les deux camps sans franchir le marais. Parfois, cependant, il était traversé soit par nos auxiliaires gaulois ou germains, qui poursuivaient alors vivement l'ennemi, soit par l'ennemi lui-même, qui à son tour nous repoussait assez loin. Il arrivait aussi, comme on allait chaque jour au fourrage, et l'inconvénient était inévitable, car les granges où l'on devait aller prendre le foin étaient rares et dispersées, qu'en des endroits d'accès difficiles, des fourrageurs isolés fussent enveloppés. Ces incidents ne nous causaient que des pertes assez légères, de bêtes et de valets, mais ils inspiraient aux barbares des espoirs insensés, et cela d'autant plus que Commius, qui, je l'ai dit, était allé chercher des auxiliaires germains, venait d'arriver avec des cavaliers. Ils n'étaient pas plus de 500, mais que les Germains fussent là, c'était assez pour exalter les barbares. 11. César, voyant que les jours passaient et que l'ennemi restait dans son camp sous la protection d'un marais, et avec l'avantage d'une position naturelle très forte, qu'on ne pouvait en faire l'assaut sans une lutte meurtrière, et que, pour l'investir, il fallait une armée plus nombreuse, écrit à Caius Trebonius d'appeler au plus vite la 13e légion qui hivernait avec le légat Titus Sextius chez les Bituriges et, ayant ainsi 3 légions, de venir le trouver à grandes étapes. En attendant, il emprunte à tour de rôle à la cavalerie des Rèmes, des Lingons et des autres peuples dont il avait mobilisé un fort contingent, des détachements qu'il charge d'assurer la protection des fourrageurs en soutenant les brusques attaques de l'ennemi. 12. Chaque jour, on procédait de la sorte et déjà l'habitude amenait la négligence, conséquence ordinaire de la routine. Les Bellovaques, qui savaient où se pistaient chaque jour nos cavaliers, font dresser par des fantassins d'élite une embuscade dans un endroit boisé et y envoient le lendemain des cavaliers qui devront d'abord attirer les nôtres pour qu'ensuite les gens de l'embuscade les enveloppent et les attaquent. La mauvaise chance tomba sur les Rèmes, dont c'était le jour de service. Apercevant soudain des cavaliers ennemis, comme ils étaient les plus nombreux et n'éprouvaient que du mépris pour cette poignée d'hommes, ils les poursuivirent avec trop d'ardeur et furent entourés de tous côtés par les fantassins. Surpris par cette attaque, ils se retirèrent à plus vive allure que ne le veut la règle ordinaire d'un combat de cavalerie, et perdirent le premier magistrat de leur cité, Vertiscos, qui commandait la cavalerie. Il pouvait à peine, en raison de son grand âge, se tenir à cheval, mais selon l'usage des Gaulois, il n'avait pas voulu que cette raison le dispensât du commandement, ni que l'on combattît sans lui. Ce succès et la mort du chef civil et militaire des Rèmes enorgueillit et excite l'ennemi. Les nôtres apprennent à leurs dépens à reconnaître les lieux avec plus de soin avant d'établir leur poste et à poursuivre avec plus de prudence quand l'ennemi cède le terrain. 13. Cependant, il ne se passe pas de jour qu'on ne se batte à la vue des deux camps, aux endroits guéables du marais. Au cours d'un de ces engagements, les Germains que César avait fait venir d'au-delà du Rhin pour les faire combattre, mêlés aux cavaliers, franchissent résolument tous ensemble le marécage, tuent les quelques ennemis qui y résistent et poursuivent avec vigueur la masse des autres. La peur saisit l'ennemi, non seulement ceux qui étaient serrés de près ou que les projectiles atteignaient de loin, mais même les troupes qui étaient, selon l'habitude, placées en soutien à bonne distance, prirent honteusement la fuite et, délogés à plusieurs reprises de positions dominantes, ils ne s'arrêtèrent qu'une fois à l'abri de leur camp. Quelques-uns eux-mêmes, confus de leur conduite, se sauvèrent au-delà. Cette aventure démoralisa si fort toute l'armée ennemie qu'on aurait pu dire qui l'emportait de leur insolence au moindre succès ou de leur frayeur au moindre revers. 14. Plusieurs jours se passèrent sans qu'ils bougent de ce camp. Lorsqu'ils apprennent que les légions et le légat Caius Trébonius sont à peu de distance, les chefs des Bellovaques, craignant un blocus comme celui d'Alésia, renvoient pendant la nuit ceux qui sont trop âgés ou trop faibles ou sans armes et avec eux tous les bagages. Ils étaient occupés à mettre de l'ordre dans la colonne où régnait l'agitation et la confusion. Les Gaulois ont l'habitude, même pour les expéditions les plus braves, de se faire suivre d'une foule de chariots. Lorsque le jour les surprend, ils rangent devant le camp des troupes en armes pour empêcher les Romains de se mettre à leur poursuite avant que la colonne des bagages ne soit déjà à une certaine distance. César, s'il ne pensait pas devoir attaquer des forces prêtes à la résistance quand il fallait gravir une colline si escarpée, n'hésitait pas en revanche à faire avancer ses légions assez loin pour que les barbares, sous la menace de nos troupes, ne pussent quitter les lieux sans danger. Voyant donc que les deux camps étaient séparés par le marais, qui formait un obstacle sérieux et capable d'empêcher une poursuite rapide, observant d'autre part que la hauteur qui, de l'autre côté du marais, touchait presque au camp ennemi, en était séparée par un petit vallon, il jette des passerelles sur le marais, le fait franchir par ses légions et atteint promptement le plateau qui couronnait la colline et qu'une perte rapide protégeait sur les deux flancs. Là, il reforme ses légions, puis, ayant gagné l'extrémité du plateau, les range en bataille sur un emplacement d'où les projectiles d'artillerie pouvaient atteindre les formations ennemies. 15. Les barbares, confiants dans leur position, ne refusaient pas de combattre si jamais les Romains essayaient de monter à l'assaut de la colline. Quant à renvoyer leurs troupes peu à peu par petits paquets, ils ne pouvaient le faire sans avoir à craindre que la dispersion ne les démoralisât. Ils restèrent donc en ligne. Quand ils les voient bien décidés, César, laissant 20 cohortes sous les armes, trace un camp à cet endroit et ordonne qu'on le fortifie. Les travaux achevés, il range les légions devant le retranchement, place les cavaliers en grand garde avec leurs chevaux tout bridés. Les Bellovaques, voyant que les Romains étaient prêts à la poursuite et ne pouvant d'autre part ni veiller toute la nuit, ni demeurer sans risque plus longtemps sur place, eurent recours pour se retirer au stratagème suivant. Se faisant passer de main en main les bottes de paille et les fascines qui leur avaient servi de siège, on a vu dans les précédents commentaires de César que les Gaulois ont coutume de s'asseoir sur une fascine, et dont il y avait dans le camp une grande quantité, ils les placèrent devant leur ligne et, à la chute du jour, à un signal donné, ils les enflammèrent toutes ensemble. De la sorte, un rideau de feu déroba brusquement toutes leurs troupes à la vue des Romains. Les barbares profitèrent de ce moment-là pour s'enfuir à toutes jambes. 16. La barrière des incendies masquait à César la retraite des ennemis, mais, se doutant qu'il les avait allumés pour faciliter leur fuite, il porte les légions en avant et lance la cavalerie à leur poursuite. Toutefois, craignant un piège, au cas où l'intention de l'ennemi serait de se maintenir sur sa position et de nous attirer sur un terrain désavantageux, il n'avance lui-même qu'avec lenteur. Les cavaliers hésitaient à entrer dans la fumée et les flammes qui étaient fort épaisses. Ceux qui, plus audacieux, y pénétraient, voyaient à peine la tête de leurs chevaux. Ils craignirent une embuscade et laissèrent les Bélovaques se retirer librement. Ainsi, cette fuite où se mêlaient la peur et l'habilité leur permit de gagner sans être aucunement inquiétés, à une distance de 10 000 au plus, une position très forte où ils établirent leur camp. De là, plaçant souvent des fantassins et des cavaliers en embuscade, ils faisaient beaucoup de mal aux Romains quand ceux-ci allaient au fourrage. 17. Ces incidents se multipliaient lorsque César apprit par un prisonnier que Choréos, chef des Bélovaques, ayant formé une troupe de 6 000 fantassins particulièrement valeureux et de 1 000 cavaliers choisis entre tous, les avait placés en embuscade à un endroit où ils soupçonnaient que l'abondance du blé et du fourrage attirerait les Romains. Informé de ce plan, il fait sortir plus de légions qu'à l'habitude et envoie en avant la cavalerie qui escortait toujours les fourrageurs. Il y mêle des auxiliaires légèrement armés. Lui-même, à la tête des légions, approche le plus près possible. 18. Les ennemis placés en embuscade avaient choisi pour l'action qu'ils méditaient une plaine qui n'avait pas plus de 1 000 pas d'étendue en tous sens et que défendaient de tous côtés des bois ou une rivière très difficile à franchir. Ils s'étaient embusqués alentour, l'enveloppant comme d'un filet. Les nôtres, qui s'étaient rendus compte des intentions de l'ennemi et qui étaient équipés pour le combat et le désiraient, car se sentant soutenus par les légions qui suivaient, il n'était pas de lutte qu'ils n'acceptassent, entrèrent dans la plaine escadron par escadron. Les voyant arriver, Choréos pensa que l'occasion d'agir lui était offerte. Il commença par se montrer avec un petit nombre d'hommes et chargea les premières unités. Les nôtres soutiennent fermement le choc, en évitant de se réunir en un groupe compact, formation qui, généralement, dans les combats de cavalerie, quand elle est l'effet de quelques paniques, rend redoutable pour la troupe, son nombre même. Fin de la première partie de 3 du livre 8.